épisode.
Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 8 janvier 1987.
L'Europe.
l'Europe peut encore exister. Alors là, on touche le problème de la philosophie, de la politique chrétienne. Y a-t-il une politique chrétienne? Y a une éthique chrétienne? Y a-t-il une politique chrétienne? Ou est-ce qu'il y a des hommes chrétiens qui font la politique? Et tous ces problèmes très actuels et très importants, qu'est-ce que ça représente, la philosophie des partis, la politique des partis? Est-ce que la politique des partis ne risque-t-elle pas de mettre la philosophie politique dans un état, dans une situation limite, à la place de faire la politique du bien de l'homme, on fait une politique des partis? Ah, est-ce que ça signifie, hein, quand la droite l'emporte, on fait la politique de la droite? Quand la gauche l'emporte, on fait la politique de la gauche? Et l'homme est oublié. On ne fait plus la politique du bien de l'homme. Plus personne. Du moins très peu. Et dans une politique internationale, Gog et Magog, on voit bien ces deux extrêmes. Politique et la pauvre petite Europe est entre les deux. Sans parler de l'Afrique, qui est à la remorque. C'est vrai, il faut avoir ce regard international. Y a-t-il une politique internationale? Qu'est-ce que c'est qu'une politique internationale? Alors, il faut revenir, puisqu'au plan philosophique, on fait une philosophie, non pas des idéologies politiques. Il faut très intéressant de regarder ces idéologies politiques. L'idéologie du libéralisme, l'idéologie du marxisme, l'idéologie d'une dictature, de droite ou de gauche, l'idéologie de la démocratie, ce sont des idéologies aujourd'hui. Et on oublie l'homme. Et quand le Saint-Père a donné l'encyclique sur le travail, il nous a rappelé qu'il fallait revenir à l'homme. L'homme politique, l'homme engagé dans une communauté. Alors on doit essayer, au plan philosophique, tout en s'appuyant sur quelques philosophies politiques importantes, la politique, la philosophie politique, elle a commencé avec Platon, le grand livre de Platon sur la République. Il ne faut jamais l'oublier, ça doit être la toile de fond. Il faut lire et relire la politique de Platon. C'est ce qui n'est pas si commode que ça. Et voir qu'il y a un Platon de droite et un Platon de gauche. C'est très curieux ça. Il y a un Platon de droite, c'est évident. Il n'y a rien de plus à droite que Platon. Puisque le contemplatif, le philosophe, doit être roi. Ça a été l'aspiration constante de Platon. Il avait des ancêtres qui étaient des empereurs. Il avait des oncles qui étaient dans la politique. Il s'apercevait qu'Athènes dégringolait. Il voulait être le héros qui sauve Athènes. Donc, il y avait en lui un sens politique très étonnant. Mais elle est tombée dans une idéologie. Le primat de l'idée, de la forme. C'est plus que l'idée, hein. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors, il y a bien dans Platon les deux extrêmes. Que le roi soit contemplatif. C'est merveilleux. Ça ne peut pas aller plus loin, puisque le roi doit connaître la finalité des hommes. Or, la finalité de l'homme, c'est la contemplation. Mais est-ce que la contemplation n'est pas au-delà de la politique? Platon n'a pas vu avec suffisamment de netteté la distinction entre le devenir et l'être, entre la finalité et le conditionnement de l'homme. Il n'a pas vu avec assez de netteté. Alors, il y a la contemplation du bien, et puis la justice. Et de fait, dans la République, vous voyez, ces deux aspects. Mais la justice ne peut être établie que par la contemplation du bien. Et donc, la politique est directement en dépendance de la contemplation. Le roi contemplatif a le droit de mentir pour imposer ses vues au bon peuple qui, lui, ne peut pas connaître la vérité. Incapable de connaître la vérité, il est dans les cavernes. Il ne voit que les ombres. Tandis que le philosophe, lui, il a vu la vérité, il a contemplé la vérité. Alors, il revient dans la caverne comme homme politique, comme roi. Mais il impose nécessairement. Alors, on a une espèce de dictature. Parce que je crois que le propre de la dictature, c'est d'accepter le mensonge comme un moyen politique. Dans toute dictature, il y a le mensonge qui s'établit comme moyen politique. Et bien, Platon a compris ça. Et il l'a accepté. C'est là où on ne peut pas être platonicien. On ne peut pas prendre la politique de Platon comme un grand modèle à établir. C'est un rêve. C'est un très beau rêve. C'est un cauchemar aussi. Mais c'est un rêve extraordinaire, la politique de Platon. C'est bon d'étudier la politique de Platon pour purifier nos rêves politiques. Parce que la purification des rêves politiques est quand même quelque chose de très important pour revenir dans un réalisme. Alors, Platon, homme de droite, contemplatif, homme de gauche, pas de famille. Il n'y a pas de famille chez Platon. Il y a la communauté des femmes. Et la communauté des femmes chez Platon, pas seulement la communauté des biens, mais la femme est considérée comme un avoir, le premier avoir. C'est très curieux. Comme le corps n'est pas considéré comme un avoir, c'est la femme qui est considérée comme l'avoir. On a toujours besoin de posséder quelque chose. Et quand la possession n'est pas vue au bon endroit, on la transpose au mauvais endroit. Et la femme est considérée comme l'avoir de l'homme, un avoir commun. Et ceci parce que il faut la plus grande unité. Et si l'avoir est commun, si les femmes sont le bien commun, tout citoyen pourra considérer tous ceux de la génération inférieure comme ses propres enfants. Il ne saura pas si ce n'est pas ses enfants, donc il devra les aimer. Mais cette espèce de paternité tout à fait particulière... Il y a la nostalgie de la paternité chez Platon. Il ne faut pas l'oublier. Il y a la nostalgie de la paternité. La nostalgie de la royauté et la nostalgie de la paternité. Alors, le contemplatif doit être roi. Et il faut qu'on puisse être père de tous. La catholicité de la paternité. Alors, c'est très simple. La catholicité de la paternité, c'est de faire que toutes les femmes sont en commun. Donc, tous les enfants que je vois peuvent être mes enfants. Et donc je dois les aimer comme mes propres enfants, parce que je ne sais pas si c'est comme ça. C'est extrêmement curieux. Et c'est très important et très intéressant, parce que c'est la première grande philosophie politique. Donc il faut tout le temps revenir à ça. C'est un fou. Mais il ne faut surtout pas être platonicien en politique. Quand on est platonicien en politique, on est sûr, hein, on est sûr de la catastrophe. La catastrophe est inscrite dans la République de Platon, mais c'est grand. Il y a une noblesse dans Platon. Il y a une grandeur dans Platon. Il y a une nostalgie de la noblesse et de la grandeur. Et je dis bien nostalgie. Il y a une nostalgie de l'unité. Alors, face à Platon, la politique d'Aristote. Parce que c'est les deux grands livres politiques sur lesquels il faut tout le temps venir. La politique d'Aristote est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Là encore, on ne peut pas prendre la politique d'Aristote comme notre traité de politique. Mais on voit la réaction d'un Aristote face à Platon, qui veut un réalisme. La grandeur d'Aristote, c'est de montrer que le fondement de toute politique, c'est la famille. Je crois que c'est ça la grandeur d'Aristote. C'est d'avoir voulu sauver la famille en montrant que l'aspect politique se fonde sur la famille et non pas sur l'individu. Ça se fonde sur la famille. Que c'est la famille qui est la source d'une communauté et de toutes les communautés. Si vous supprimez la famille, vous supprimez la communauté politique. Aristote montre, deuxièmement, que le bien commun, c'est un bien, et ce n'est pas l'unité. La nostalgie de l'unité, c'est intéressant en face de l'œcuménisme aujourd'hui. Parce qu'il y a diverses manières de comprendre l'œcuménisme. Si vous voulez chercher l'unité par-dessus tout, vous vous cassez la tête. C'est la République de Platon qui cherche l'unité par-dessus tout. Il faut chercher le bien commun, le bien que les hommes sont capables de faire. Donc face à la République de Platon, la politique d'Aristote, qui est une analyse beaucoup plus poussée, qui est difficile. C'est beaucoup plus difficile. Platon, ça se lit comme un roman, et comme un rêve, ou comme, si vous voulez, un cauchemar. Ça dépend comment vous le lisez. Tandis qu'Aristote, c'est quelque chose de très réaliste. C'est une analyse philosophique dans le domaine politique. On peut faire une philosophie politique. C'est pas si commode que ça à voir. Ce domaine extrêmement complexe que la politique implique un regard philosophique. Un regard philosophique, donc, d'une analyse, de comprendre ce que c'est que l'homme engagé dans la politique. Et pour Aristote, il faut donc distinguer la communauté familiale qui est fondamentale, la communauté politique qui est au sommet et la communauté intermédiaire. Donc il y a trois types de communautés. La communauté familiale qui est fondamentale, qui est première, la communauté des artisans, des travailleurs, qui est donc beaucoup plus complexe, et puis la communauté politique. Et chacune de ces communautés se distingue par la recherche d'un certain bien, le bien de la survie de l'homme, la famille. Yes. parce qu'un homme ne peut pas tout faire. Et donc il faut nécessairement une spécialisation du travail. La division du travail va engendrer cet autre aspect de la communauté des travailleurs. Si je suis cordonnier, pour être un bon cordonnier, il faut nécessairement du métier. Si je suis agriculteur, il faut nécessairement un certain sens de ce qu'on représente, et ainsi de suite. Et donc, il faut la possibilité de se rencontrer. Et ce sera cette communauté diverse des travailleurs. Bon, ce qui est important, c'est de voir ces trois communautés diverses, avec trois finalités différentes. Alors, troisième aspect de la politique dans la philosophie grecque, les stoïciens, qui sont les premiers à considérer que l'homme est le citoyen du monde. L'internationale, la première internationale est stoïcienne. Mais parce que pour Aristote, comme pour Platon, le monde se divise en grec et barbare. C'est toujours la tentation permanente, hein, au plan politique, c'est de considérer que les autres sont des imbéciles. C'est toujours un peu la tentation. Tu vois. Au fond, on est le seul nombril du monde. Le grec est nombril du monde. À côté sont les barbares. Vous voyez, les juifs et les goyim. Hein, toujours la même tentation. L'homme libre et l'esclave. C'est très curieux que la politique conduit. Alors que ça devrait être l'inverse. La politique conduit à certaines divisions à l'intérieur de l'humanité. Alors que l'aspect politique devrait conduire au contraire à la communauté de l'humanité. C'est la tentation permanente. Je crois que c'est le primat de l'efficacité qui fait ça. Oui, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a les mêmes choses, hein, il y a les mêmes problèmes. Quelqu'un que je connais bien, qui est qui connaît parfaitement certaines choses aujourd'hui, sait très bien qu'il se fait des études aujourd'hui, aussi bien en Amérique qu'à Moscou, qu'en Europe, pour savoir quel est le véritable bien-être de l'homme. Mais le bien-être du côté de l'efficacité. Et donc, du côté de l'efficacité, il faut que l'homme ait le courage de diviser le monde en deux. Ceux qui sont évolués et ceux qui ne le sont pas. Alors, ceux qui ne le sont pas sont un poids pour le monde évolué, les nantis. Et donc, il faut supprimer, tout simplement, ils le disent ouvertement, j'ai vu les documents. Et les analyses. Il faut supprimer ce monde de ceux qui ne sont pas encore évolués. On n'arrivera jamais à leur permettre d'arriver au même niveau. Oui, on divise le monde en grec et barbare. On divise le monde en libre et esclave. C'est très curieux, ça. Je crois que le primat de l'économie fait ça. Alors, les économistes ont l'air d'être tout à fait ouverts à tout. Mais en réalité, il y a cette recherche de l'efficacité avant tout. Et la recherche de l'efficacité avant tout divise les deux. Vous voyez la petite expérience que vous avez du travail. Au niveau de la cuisine, par exemple. Bon, un cuisinier, un maître coq, sait très bien qu'il y a des frères qui travaillent et des frères qui travaillent très mal. Et instinctivement, il fera la division entre ceux qui sont efficaces, avec qui on peut travailler. Et quand il y aura un travail particulièrement intense, il dira, donnez-moi celui-là, celui-là. Les autres, très bien, mais non. Oui, on divise l'humanité en efficacité et en non-efficacité. Mais on n'a qu'à regarder chacun dans son petit domaine. On fait ça au point de vue intellectuel aussi. Ah, celui-là, oui, oui. Il y aura du rendement. L'autre, non. Poussez ça jusqu'au bout. Vous arriverez à dire grec et barbare. c'est monstrueux de dire ça. Mais on le fait pratiquement. C'est très curieux. Ça, c'est une expérience, je crois, très importante, parce que ça devrait être l'inverse. La politique, c'est de regarder la communauté. Et quand on regarde la communauté, on regarde le tout. Et donc, on n'exclut personne. Un homme politique n'exclut personne. Et il sait que chaque homme a quelque chose à dire dans son domaine particulier. Mais si vous mettez le primat de l'efficacité, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous divisez l'humanité en deux. Et vous divisez une communauté, même une communauté religieuse, en deux. Vous divisez la communauté chrétienne en deux. Parce qu'il y a un primat de l'efficacité. Mais il y a la grande tentation, et je crois que ça, on retrouverait ça constamment, à travers l'histoire de la philosophie politique. Alors ces divisions ne sont pas toujours au même point, au même, mais c'est toujours la même chose. C'est l'efficacité qui l'emporte sur l'amour, sur la fécondité, sur le développement de l'homme dans son bien-être. À la place du bien commun, on ne regarde que l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est pas le bien commun, c'est un élément du bien commun. Être efficace dans son travail, c'est merveilleux. Parce que être non efficace dans son travail, c'est pas très drôle. Dès qu'on réalise quelque chose, on veut l'efficacité et on a raison. La raison engendre, veut être efficace. Et s'il n'est pas efficace, il se lasse et dit: ah bon, c'est pas la peine de continuer. Il s'assied. C'est la tentation permanente, dès que vous voulez, le point de vue du travail, le point de vue artistique, on veut l'efficacité. Il le faut. Le travail demande l'efficacité. Mais l'efficacité n'égale pas l'homme. Et quand vous mettez homme égale efficacité, vous tuez l'homme. Et ça, on s'en aperçoit aujourd'hui. On s'en aperçoit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un retour vers l'homme aujourd'hui. À l'intérieur même de l'efficacité. Mais ceux qui sont encore entièrement pris par le monde de l'efficacité divisent l'humanité en deux, les Grecs et les barbares, les hommes libres et les esclaves. Donc, prenons bien, ayons toujours en face de nous ces trois politiques. Politique platonicienne, aristotélicienne, stoïcienne. Toutes les trois ont quelque chose d'intéressant. Parce que c'est vrai, le dépassement du grec et du barbare, c'est quand même un dépassement qui est bon. De comprendre que l'homme est un citoyen de l'univers, c'est quand même bon à regarder ça. La première internationale, stoïcienne, dépassement. Mais ce dépassement s'est fait dans des conditions très particulières. Alors, après avoir rappelé cet aspect topique qui montre qu'il y a un problème, nous essayons, nous, de faire la philosophie de la politique. Quelle est l'expérience qui commande la philosophie politique pour qu'elle soit réaliste? C'est la grande question. Parce que si je reste dans les idéologies, je sais très bien que je me casserai la tête. Et du côté politique, l'idéologie a, j'allais dire, une séduction très particulière. Les hommes politiques, presque tous les hommes politiques, ce sont des idéologues. Dès que vous êtes au gouvernement, le très grand danger, c'est de tomber dans l'idéologie. D'avoir un plan d'idéologie. Et vous n'avez plus suffisamment le regard réaliste. Alors, il y a quelque chose de vrai. C'est que je crois que celui qui gouverne doit toujours avoir un certain idéal. Mais il faut qu'il ait une finalité. Le jour où l'idéal l'emporte sur la finalité, ça va plus. Il retombe dans l'idéologie. Mais il y a un certain idéal. Il ne peut pas être uniquement dans la finalité. C'est très curieux. Et c'est ce mélange des deux qui fait le vers sa finalité et qui doit accepter son conditionnement. On a besoin de la communauté à cause de notre conditionnement. Si vous étiez entièrement finalisé par la contemplation, vous n'auriez pas besoin de la communauté. Vous avez dit, moi je suis contemplatif, je suis au-delà. C'est la tentation de l'ermite. C'est bien ce que dit Aristote sur l'ermite. Sur le solitaire. Le solitaire, il est ou un dieu ou une bête. Ou un dieu parce qu'il est arrivé à la contemplation. Ou une bête parce qu'il n'a même pas la rectification de la communauté. Dans une communauté, vous ne pouvez pas être un fainéant. Tandis qu'un ermite, sous les couverts d'ermite, peut dire, oh, je suis très fatigué. C'est très très glorieux ça. Et il avait très bien vu qu'un ermite, un solitaire, ou est un dieu, ou un animal, un franc humain. La communauté vous empêche d'être infra-humain et donc d'être humain. La communauté, c'est pour le devenir qui est en nous. C'est tout notre conditionnement qui a toujours besoin de s'alimenter en vue de la finalité. Mais la finalité de l'homme est au-delà de la communauté. C'est pour ça que c'est toujours très difficile pour un philosophe d'être dans une vie commune. Parce que le philosophe cherche la contemplation, et la contemplation le met au-dessus de la vie commune. Donc, ça exige beaucoup d'humilité, en comprenant que sa contemplation peut encore croître. Et tant qu'on est sur la terre, notre contemplation peut toujours croître, aussi bien notre contemplation divine que notre contemplation philosophique. La philosophie a ce privilège énorme de toujours croître. On ne peut jamais dire c'est terminé. Et donc on a toujours besoin de la communauté. Parce que c'est notre conditionnement, c'est la possibilité de croire, la communauté. C'est la possibilité de croire. Le jour où vous dites, je ne peux plus croître, j'ai atteint mon sommet, vous mourrez comme un politique. Et vous mettrez comme un dieu ou comme un animal, ça dépendra des cas. Parce que nous portons tous en nous quelque chose de divin et quelque chose d'animal. Donc le jour où vous arrêtez le conditionnement, le devenir, vous vous mettez ou comme un dieu. Mais faites attention, vous vous déclarez dieu, écoutez les autres. Il y a des gens qui se déclarent comme des dieux, comme des contemplatifs et tous les outils, c'est un grand rêve. La contemplation n'est pas un rêve. C'est une réalité. Une réalité qui nous met en relation avec une autre réalité. La réalité suprême. Donc le contemplatif est réaliste. Il est suprêmement réaliste. Mais quand c'est un rêve, il n'est plus réaliste. Et les autres s'en aperçoivent. Dire, oh, laissez-le, c'est un original. C'est ce qu'on dit ordinairement. C'est un ermite, c'est un original, laissez-le. Alors, cet original, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité qu'il atteint? C'est pour ça que le jugement des autres est toujours important. Et bien alors, il sera infra-humain. Donc, on doit chercher quelle est l'expérience politique qui nous permet d'édifier une politique. Si vous cherchez bien, vous verrez qu'il n'y a qu'une seule expérience. L'expérience de la coopération. Qui implique la solidarité. J'aime mieux dire la coopération que la solidarité. Parce que dans la solidarité, j'insiste plus sur l'aspect moral. Dans la coopération, je noue l'aspect efficacité et l'aspect moral. La solidarité, je comprends très bien qu'on appelle solidarité dans un monde marxiste. Pour réagir contre ça. Alors on parle de la solidarité. Et il faut la solidarité. Mais c'est un aspect beaucoup plus moral. Il faut avoir une certaine confiance les uns envers les autres. Alors il faut essayer d'étudier qu'est-ce que c'est que l'expérience de la solide, de la coopération. C'est une expérience très importante que nous avons tous fait fameux avocats qui font le même bureau en disant on va être solidaires, on va coopérer ensemble. Et puis au bout de 5 ans, on s'aperçoit que c'est impossible. C'est vrai, c'est très curieux. L'expérience du noviciat, on coopère au bien commun. L'expérience d'une communauté religieuse, l'expérience d'une famille. La famille est famille tant qu'il y a coopération. Le jour où il n'y a plus de coopération, il n'y a plus de famille. Alors il faut étudier tous les éléments qui sont impliqués dans la coopération. Et je crois que le premier élément dans la coopération, c'est la confiance. On travaille ensemble. Et on fait une œuvre commune. Ensemble. Donc, il faut une certaine confiance. Et la confiance implique un certain amour. Et la confiance est parfaite que dans l'amitié. C'est le propre de l'amitié, d'avoir totalement confiance. C'est pour ça que quand on travaille en ami, on travaille de façon parfaite. Mais c'est difficile qu'une amitié se généralise en toute une communauté. Mais ça commence comme ça. Puis, ça s'étend. C'est pour ça qu'on a des rêves tout le temps. Quand la communauté, on était que 5. Hein. C'était merveilleux. Parce que quand on est plus, on se connaît plus. Ah oui, des avantages et des inconvénients. Parce qu'il faut beaucoup de petits prophètes pour qu'il y ait un grand prophète. Tandis que quand ils sont restés toujours 5, ils risquent à un moment donné de ne plus avoir de grands prophètes, il n'y a plus que des petits prophètes. C'est pour ça qu'il y a le phénomène de la qualité de la quantité qui toujours est présent dans la communauté. Le problème du nombre, ça joue énormément dans la coopération. Jusqu'où on peut coopérer. Si on donne à celui qui est responsable de la cuisine 20 personnes, il dit mais c'est beaucoup trop, parce qu'il ne fiche rien du tout. Si on leur donne 2, c'est pas assez. Ils ont trop de travail. La question du nombre. La question du nombre intervient toujours dans le problème de la coopération. C'est très curieux, ça. Le nombre intervient dans la coopération. Pourquoi ? Parce que la coopération implique justement ce conditionnement. Et ce conditionnement humain implique la quantité. Notre conditionnement, vous savez bien, la quantité, c'est ce qui nous conditionne le plus. Et la coopération implique qu'on puisse se retrouver, qu'on s'accepte mutuellement. Donc, nous l'avons fait, je ne vais pas le reprendre cette étude-là, mais c'est très important d'y revenir tout le temps. Quels sont les éléments qui permettent une coopération ? Partez de l'expérience que vous avez de la coopération, la plus petite qui soit, et essayez d'étudier tous les éléments qui sont impliqués dedans. Et vous voyez qu'à partir de là, toute une étude de la communauté est comme s'édifie. Il faut une certaine confiance et il faut une certaine compétence. On acquiert une compétence. Quand on veut maintenir la coopération, on acquiert une compétence. Pour ne pas être la cinquième roue du chariot. Et la cinquième roue du chariot, par définition, ne touche la terre que par moment. Oui, alors c'est le travail ponctuel, hein, vous savez bien. C'est la mouche du coche. La cinquième roue du chariot. Parce que ça manque de compétence. Tandis que quand il y a une compétence, alors immédiatement on entre pleinement dedans. On a la plus grande satisfaction au point de vue de la coopération, c'est quand on vous dit on a absolument besoin de vous. Alors là, c'est merveilleux. On a absolument besoin de vous. Si vous n'êtes plus là, vous ne trouverez plus moyen. Quand on vous dit ça, on vous donne une qualification. Il faut la qualification, c'est la compétence dans le travail. Il faut une qualification dans le travail pour qu'il y ait une coopération. Parce que si vous êtes complètement neutre dans la coopération, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Oui, celui qui est qu'on peut remplacer comme on veut. Alors il coopère d'une façon anonyme. Dans la coopération, il faut au contraire que chaque puisse venir vraiment apporter sa qualification. là où la coopération devient vraie. Il y a deux éléments qui sont tout le temps à chevaucher. L'élément de confiance, donc l'amour d'amitié, la philanthropie, l'amour de l'homme, et puis la compétence, le métier. On sait ce qu'on fait, et on connaît ça, et on le connaît, et on essaie de le connaître de mieux en mieux, pour être plus efficace. Donc il y a une efficacité et une confiance. Alors, vous voyez que tout de suite, la coopération fait une synthèse du fat-géré et de l'ad-géré. La synthèse de la philosophie éthique et de la philosophie artistique, de la philosophie du travail. Les deux sont présents dans une coopération. Il n'y a pas de coopération sans un certain sens moral. Il n'y a pas de coopération sans une certaine efficacité. Et ça, on le voit très bien. Et si vous essayez de comprendre comment vous voulez supprimer, faire sauter la coopération, les grèves, la grève fait sauter la coopération. On divise, on oppose ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Donc on supprime radicalement la coopération. Et comment on fait cela? En mettant la rivalité. Et la rivalité engendre les oppositions. D'où la révolution. C'est important de saisir comment on fait ce qu'on veut supprimer la coopération. À l'intérieur d'une communauté religieuse, on s'aperçoit ça très bien. Comment? Alors on appelle ça, au point de vue religieux, des tentations. Des tentations. Des tentations de murmure. On murmure contre l'autorité. Donc on sépare l'autorité de ceux qui obéissent. Et on montre que l'intérêt de celui qui commande n'est pas le même que l'intérêt de ceux qui obéissent. La rivalité naît. Et à ce moment-là, il n'y a plus de coopération possible. Parce que si vous avez l'impression que si vous coopérez, vous êtes un lâche. Vous servez l'autre, vous devenez un esclave. Vous flattez. Et donc il faut au contraire rentrer à fond dedans. Alors vous divisez la coopération en une solidarité de ceux qui commandent et la solidarité des ouvriers, de ceux qui exécutent. Alors il y a une division qui se fait entre les deux. Il faut comprendre donc que la grande expérience de la philosophie politique, c'est au niveau de la coopération. Et cette expérience de la coopération se réalise en premier lieu dans la famille. C'est pour ça qu'au niveau philosophie politique, la famille apparaît comme le lieu fondamental, je ne dis pas le plus parfait, mais fondamental de la coopération. La zizanie dans la famille, c'est ce qui détruit la famille. Mais encore une fois, la famille n'est pas la communauté parfaite. C'est pour ça qu'on a besoin de sortir de la famille. C'est un besoin, c'est comme un gosse qui resterait trop longtemps dans le sein maternel. Ce serait pénible pour la mère et ce serait pénible pour le gosse. Au bout d'un certain temps, il étoufferait. Et bien, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. On voit très bien, c'est la même chose. La famille représente un milieu premier, fondamental. Et ce n'est pas parfait. Alors, au bout d'un certain temps, on étouffe, il faut sortir. Et on comprend très bien qu'il faut sortir au moment où on ne coopère plus. Signal d'alarme quand la coopération ne se fait plus. Parce que les intérêts de la famille ne correspondent plus aux intérêts personnels. Il y a quelque chose d'autre. Alors, c'est pour ça que la communauté familiale représente bien quelque chose de fondamental. Et c'est dans la famille qu'on découvre en premier lieu la coopération. C'est vrai. Une coopération qui se fait normalement dans l'amitié. Une famille n'existe que dans l'amitié. Alors il y a une coopération amicale, et c'est là la coopération la plus parfaite. La seconde coopération, ce sera au travail. Et la troisième coopération sera au niveau politique. Je crois qu'on peut maintenir ces trois types de coopération. Mais alors on comprendra que le point de vue politique aujourd'hui implique un aspect international. Impossible autrement. Donc il y a une coopération à dimension internationale qui se retrouvera au niveau économique, donc au niveau du travail, qui se retrouvera au niveau conception de l'homme.